Vous êtes libre, vous entendez ?
Je suis en compagnie d'Étienne Miqueux. Que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir Karl. Nous n'avons pas été kidnappés. Ça veut dire que nous ne sommes pas des présidents de républiques de pays lointains en Amérique du Sud. Non, nous sommes à l'émission du fictionnaire et nous sommes plutôt en entretien avec de la philosophie, comme ce Étienne Miqueux, pour son livre Symbiose, un essai sur nos vies ensemble dans l'excellente collection Terra Incognita aux éditions Flammarion. Et ça traite de comment des êtres différents se regroupent, s'assemblent, se contiennent les uns les autres, et ne pouvant vivre qu'ensemble. Et c'est à cette question que répond ce concept de symbiose, qui est plutôt révolutionnaire, et donc le livre d'Étienne Miqueux, qui est une enquête philosophique, une enquête conceptuelle sur ces lichens auscultés par les botanistes du 19e siècle, aux hybrides des théories contemporaines, du microcosme bactérien à la planète symbiotique. Bref, le concept de symbiose peut, à première vue, paraître bien étrange. Mais il propose, ce philosophe, d'y voir notamment des mondes possibles où nos vies associées échappent aux fantasmes de compétition et de pureté, et où faire place à plus que soi devient la garantie que l'on puisse dire « nous vivons ensemble ». Oh, mais comme ce livre est fort à propos, Karl, ne crois-tu pas ? Bonsoir, Karl.
Oui, tu me parles de musique d'habitude, tu me dis je vais passer de la musique.
Ah c'est vrai, bah, c'était pour te dire, je sens que dans nos vivres ensemble, il y a de la musique, et pourquoi pas une musique qui pourrait résonner avec une actualité quelconque, légèrement stupéfiante, qui est arrivée ce week-end et qui nous a réveillés.
Captivé par mon changement de programme, parce qu'à la base, oui, je devais pas diffuser spécialement de la musique vénézuélienne, car c'est ça qu'on va diffuser ce soir. Et puis bah du coup oui j'ai révisé ça 10 minutes avant de partir, trouvé quelques morceaux et bah ça va être notre thématique, une thématique de soutien à la création musicale vénézuélienne électronique pour le coup. On va commencer avec un morceau d'un monsieur qui a un parcours un peu particulier, Chelique Sarabia, qui est vénézuélien, qui est poète, musicien, arrangeur, mais aussi homme politique, pas forcément pour leur meilleur gouvernement, mais c'était dans les années 70. Et ce monsieur, en fait, a eu l'idée, à la fin des années 60, de prendre du folklore vénézuélien et de le pimper, en fait, avec de la musique électronique, et notamment un système Moog. Donc ça fait des sonorités bien chouettes. Alors c'est vieux, hein, mais l'album est toujours pas trop connu, donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur Chelique Sarabia.
Et c'est sur l'émission du fictionnaire Radio Campus Orléans.
Thank you.
compagnie de Camiqueux, nous parlons de votre livre « Symbiose, essai sur nos vies ensemble » qui est paru dans la collection Terra Incognita aux éditions Flammarion. Votre livre est une enquête conceptuelle sur les mondes symbiotiques. Vous êtes un jeune philosophe et un jeune philosophe peut commencer par une enquête conceptuelle. Ma première question, bien sûr, elle va être historique, elle va porter sur le mot « symbiose ». Quelle en est son origine ?
Alors merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je suis très content de parler dans le cadre de cette émission. Donc le mot symbiose a été proposé d'abord au 19e siècle, dans la botanique du 19e siècle, dans le contexte d'une controverse sur la nature des lichens, ou plus précisément sur la nature du lien qui existe à l'intérieur de cet organisme qu'on appelle lichen, hein, qui est apparu au microscope comme non pas un seul organisme, mais comme composé de deux partenaires associés, un champignon et une algue. Et toute la question est devenue de savoir quel type de relation ces deux-là entretiennent, en quelque sorte. Donc Simon Schwendener, qui est un botaniste allemand et qui est associé à cette hypothèse de la nature duelle du lichen, lui proposait d'y voir un parasitisme, une relation très très inégale. Il utilisait des métaphores du souverain et de l'esclave, hein. Et puis un autre botaniste qui s'appelle Anton de Barry, qui est vraiment le botaniste associé à cette proposition conceptuelle de la symbiose, même si il y a un autre botaniste qui est un peu passé dans l'ombre, qui s'appelle Albert Frank, qui a proposé juste avant, un an auparavant je crois, le mot symbiotismus. Mais bon, on va dire que c'est Anton de Barry qui fait la proposition conceptuelle puissante qui va faire que symbiose est devenu un mot clé de la biologie. Anton de Barry donc propose ce mot symbiose pour décrire le lichen, mais aussi d'autres types de relations interespèces dans le monde végétal, en ne prenant plus le parasitisme comme le point de référence. Et il va incorporer en fait à ce qu'il va construire comme un champ d'étude. Des modalités de la vie en commun, on pourrait le dire comme ça, il va incorporer d'autres notions qui viennent plutôt de la zoologie, hein. C'est Joseph van Beneden, un zoologiste allemand qui, dans ses années 1870, hein, propose les mots mutualisme, commensalisme, donc des relations interespèces ou animales plutôt pour van Beneden, qui donc sont des relations de, alors soit dans le cas du mutualisme d'une réciprocité bénéfique, ou dans le cas du commensalisme une relation bénéfique pour un partenaire et sans conséquence pour l'autre, on va dire. Et donc pour revenir à De Barry, enfin De Barry va proposer symbiose non pas comme un synonyme de mutualisme, non pas non plus comme l'opposé de parasitisme, mais comme un mot qui ressaisit toutes ces modalités et continue à les pluraliser pour proposer ce champ d'études de la vie commune. Symbiose, c'est vivre ensemble, hein, symbios, la vie ensemble. Donc ça, c'est le contexte biologique, en quelque sorte. Alors après, le mot n'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas un néologisme qui a été créé à ce moment-là, en 1879, par Anton de Barry et par Albert Frank juste avant. C'est un mot qui était utilisé avant, hein, qui vient du grec, qui veut dire la vie commune, la camaraderie. C'est un mot aussi qui, qu'on trouve, et c'est une occurrence qui m'a intéressé, qu'on trouve chez Althusius, hein, le juriste et théoricien allemand au XVIIe siècle, hein, qui propose une symbiotique, l'art de la symbiotique, qui est l'art de voilà, qui proposait de contre la théorie de la du souverain, proposait de voir dans la vie commune une tendance à se rassembler, et voilà l'idée que les citoyens sont des symbiotes avant d'être les sujets d'un souverain qui les rassemble d'en haut, mais au contraire il y a quelque chose qui part par le bas, en quelque sorte, voilà, pousse les individus à vivre ensemble, et c'est une vie, voilà, une vie sociale non pyramidale, qui ne laisse pas tellement de choix. Alors on y reviendra peut-être, mais c'est un peu l'ambivalence aussi, c'est-à-dire que voilà, on est en symbiose ou on est, et quand on ne l'est pas, où est-on, quoi. Enfin bon, c'est quelque chose dont on va peut-être parler après, mais voilà, au moins deux petites voilà, le contexte scientifique autour du lichen, et puis le mot symbiose, voilà.
Alors, deux moments, effectivement, un moment plus ancien, plus diffus, un moment récent, 19e siècle, qui appartient à la botanique, donc un concept scientifique, puis vient le 20e siècle et la reprise du concept de symbiose, notamment par la biologiste Lynn Margulis. Et là, vous écrivez qu'elle pousse le curseur encore plus loin, le vivant est symbiotique jusqu'à la cellule. Vous vous attardez longuement sur Lynn Margulis, parce que de nos jours, quand on entend le mot symbiose en tant que concept scientifique, on pense à Gaïa, on pense à Lynn Margulis.
Oui, Lynn Margulis, c'est un peu la figure centrale de mon livre. En fait, ce qui se passe avec Lynn Margulis, donc dans les années 1970-1980, elle développe une hypothèse, et elle fait passer du côté des faits une hypothèse qui s'appelle la symbiogenèse. Donc, en gros, l'origine symbiotique du vivant. Elle n'en est pas elle-même à l'origine, hein, elle réactive une hypothèse qui n'avait pas fait ses preuves, hein, c'est l'idée d'une symbiogenèse, c'est-à-dire l'idée que dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules à noyaux, il y a des composantes, hein, dans nos propres cellules, dans nos corps, il y a ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont des espèces de centrales énergétiques des cellules. Dans les cellules des plantes, il y a ce qu'on appelle les chloroplastes, qui sont capables ou enfin, responsables de la photosynthèse. Ces composantes-là, ce qu'on appelle des organites, ressemblent étrangement au microscope à d'anciennes bactéries. Donc ça avait soulevé la curiosité de biologistes. Et avec cette hypothèse, qu'il s'agirait en réalité, effectivement, d'anciennes bactéries incorporées à l'intérieur de cellules primitives, et voilà, résidant en fait à l'intérieur de notre propre cellule. Margulis fait passer cette idée-là du côté des faits, notamment avec au moment du séquençage de l'ADN, hein, on remarque que finalement la mitochondrie, par exemple, n'a pas le même génome que la cellule hôte. Donc voilà, c'est une image très frappante qu'elle nous propose, et elle a des formulations elle-même très frappantes, hein, Lynn Margulis, en disant que nous ne sommes pas des individus, nous sommes des agrégats. C'est-à-dire que, voilà, dans nos propres cellules, il y a d'anciennes bactéries. On est un montage, comme ça, de cellules, de bactéries, et toutes ces idées-là ont été poursuivi, complété, hein, par des choses qui sont devenues assez populaires aujourd'hui, autour notamment du microbiote intestinal. Alors là, c'est plus dans les cellules, mais c'est dans nos entrailles. On est porteur de toute une ménagerie, en quelque sorte, de champignons, de bactéries, de virus. Ce qui fait qu'on... Et ça, c'est aussi quelque chose que Margulis a proposé, c'est le mot, enfin le concept d'holobionte, qui est... ça n'est plus l'unité qu'on va étudier, n'est plus l'individu ou l'organisme, mais l'holobionte, donc holo c'est tout, et bios la vie encore une fois, donc on va prendre en compte un organisme avec tout ce qu'il porte en lui, sur lui et près de lui. Donc d'un coup les frontières d'un organisme ne s'arrêtent plus à la peau ou à la fourrure, mais voilà, il y a comme un élargissement en fait de ce qu'une vie ou une unité de vie représente. Voilà.
Et puis vient la penseuse, la philosophe Donna Haraway. Vous arrêtez aussi longuement sur Donna Haraway. Parce que le concept de symbiose, comme vous l'écrivez, a acquis par Donna Haraway un statut de proposition théorique particulièrement puissant. Parce qu'à partir de Donna Haraway, là, le concept passe, on va dire, de la théorie scientifique à la théorie philosophique, et il va peut-être se propager d'une certaine manière. C'est peut-être une manière de comprendre ce concept de symbiose que va utiliser Donna Haraway, qu'on connaît aussi pour être une théoricienne très expérimentale, qui est en capacité justement de mélanger et de faire le lien entre de nombreux concepts pour arriver à penser, mais sa pensée, on pourrait presque la qualifier de entièrement symbiotique, c'est-à-dire ce type de mélange. Et donc j'aimerais que vous parliez de la manière dont elle envisage la symbiose de Haraway, mais aussi la critique que vous pouvez faire sur certains de ses énoncés.
Oui, absolument. C'est vrai que Donna Haraway est peut-être la théoricienne qui a le plus sérieusement lu Margulis et c'est elle qui a pris au sérieux la symbiose certainement dans toute la constellation qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, si on s'intéresse aux pensées du vivant et de l'écologie. Donc Haraway, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à des figures qui remettent en cause les dualismes, hein, nature-culture, homme-femme, etc. Enfin, tous ces dualismes de la pensée moderne, naturaliste. Et donc c'est la figure du cyborg, par exemple, hein, dans les années 80. Mais à ce moment-là, et je m'en suis rendu compte en fait récemment, sa pensée est pas complètement... Enfin, on peut peut-être rétrospectivement, on peut se dire que le cyborg c'est symbiotique, mais je me suis rendu compte que Haraway, dans deux textes très célèbres, donc le Manifeste Cyborg et les Savoirs Situés, donc des textes clés, hein, des épistémologies féministes des années 80, elle utilise le mot symbiose, mais pas du tout, enfin en un sens plutôt négatif. Dans un sens plutôt psychanalytique, hein, d'un état de fusion pré-œdipien avec la mère, et donc quelque chose comme ce contre quoi justement elle théorise, à savoir cette unification, ce qui serait un mythe d'une origine inséparée, quelque chose comme ça. Alors que pour elle, une condition contemporaine, notre condition contemporaine, c'est justement quelque chose comme un éclatement, quoi, ou une hétérogénéité radicale, ou quelque chose de radicalement coexistant qu'on trouve chez elle. Et c'est drôle parce que ensuite sa pensée est certainement sous l'influence de Margulis, en tout cas j'ai l'impression, à partir du moment où elle commence vraiment à la lire dans les années 90, puis début des années 2000, avec le Manifeste des espèces compagnes. Elle lâche le cyborg, hein, qui prend peut-être trop le risque d'être vraiment aux mains de la Silicon Valley, du transhumanisme, et elle préfère cette figure de l'espèce compagne, hein, c'est-à-dire voilà, en gros d'une figure symbiotique, hein, qui est toujours contaminée, traversée par autre chose que soi-même, une figure dont, enfin une figure qui dont la vie ne s'arrête pas à ses frontières visibles, quelque chose de cet ordre-là, et le Manifeste des espèces compagnes qui est un texte assez formidable, hein, et il s'ouvre justement par une référence à Margulis. C'est vraiment l'ouverture, une ouverture mémorable, je trouve, et assez scandaleuse, hein, où Haraway décrit sa relation avec sa chienne Cayenne. Elle décrit ses baisers avec sa chienne, et elle dit: ah, mais c'est peut-être là ce dont je fais l'expérience, cette salive d'une chienne qui vient dans ma bouche, tous ces échanges viraux, etc., qui brouille en fait, hein, en même temps qu'elle maintient, enfin sans qu'il y ait annulation, cette relation entre une universitaire américaine et une chienne dont la race a toute une histoire également. Il y a comme un point de rencontre ou une zone de rencontre. Peut-être que cette relation-là, c'est ce que Lynn Margulis appelle le sexe. Alors bon, tout de suite, on se dit pourquoi elle parle de ça. Et en fait, c'est parce que pour Lynn Margulis, le sexe ou la sexualité bactérienne avait un sens particulier, qui est celui de, non pas de la copulation, mais celui de on peut dire voilà de la division bactérienne, de la prolifération bactérienne, qui est ou des échanges également. C'est toute une théorie aussi qu'elle a, hein, qui est en lien avec l'endosymbiose, la symbiogenèse. Ce sont les transferts génétiques horizontaux, hein, à partir du moment où un organisme comme par exemple la bactérie qui s'introduit, qui s'engouffre dans la cellule primitive, il y a des échanges génétiques, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'acquisition d'un patrimoine génétique par une cellule. Et ça, c'est des choses qui existent à plein d'échelles, pas seulement à l'échelle cellulaire. Ce qui d'un coup, renverse l'idée qu'on peut se faire de la transmission génétique qui se fait par une sexualité, par la descendance, la filiation. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est en étant en coexistence, en coprésence les uns des autres qu'il peut y avoir la formation d'une zone de transformation mutuelle. On peut le dire comme ça. Et donc ça destitue en fait aussi une certaine idée qu'on peut se faire du sexe. Il y a quelque chose de queer, on pourrait dire, à ce niveau-là, ce sexe symbiotique. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais bon, en gros, il y a vraiment ce lien entre Margulis et Haraway. Alors en tout cas, les deux sont très souvent associés. Moi, ce que j'ai essayé de faire, je le dis dès l'introduction, c'est de pas prendre tout de suite Donna Haraway justement comme la référence pour penser la symbiose. J'ai voulu retourner à Lynn Margulis et à d'autres scientifiques, pour peut-être éviter de retrouver des concepts. Des formulations aussi qu'on trouve beaucoup à partir du moment où on pense frontalement ou non, hein, mais où on pense la symbiose ou la symbiogenèse, la sympoïèse, hein, c'est un autre concept que propose Haraway. Pour renouveler un petit peu peut-être ce qu'on peut dire avec la symbiose.
Alors j'aimerais maintenant qu'on fasse un retour vers les sciences pour disposer d'une histoire scientifique du concept de symbiose, mais cette fois à partir d'un biologiste français dont vous nous parlez longuement, qui s'appelle Paul Portier, et de sa théorie des symbiotes en 1918. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de cet iconoclasme de sa théorie face à l'héritage de Pasteur.
Oui, donc Paul Portier... C'est un biologiste français et il écrit effectivement ce livre, Les symbiotes, qui est une théorie assez qui est original et qui est, enfin, il a été vraiment précurseur finalement de ce que propose Margulis. Il fait partie des références. Il y en a d'autres, hein, mais de biologistes qui commencent à, voilà, qui travaillent cette idée d'une symbiose interne, hein, donc une ce qu'on appelle une endosymbiose. Alors lui, il n'utilise pas ce terme-là, mais sa théorie des symbiotes, elle consiste à dire en gros que toute présence de micro-organismes à l'intérieur d'un organisme, un organisme hôte, n'est pas néfaste. C'est-à-dire que, comment dire, il va reconfigurer en quelque sorte le rôle qui est hérité de Pasteur, hein, le rôle accordé aux micro-organismes, aux bactéries, aux microbes, qui sont avant tout considérés comme pathogènes. C'est le rôle principal qui leur est accordé depuis un point de vue qui est celui de la médecine. Et dans ce livre, Paul Portier a une formulation assez frappante qui consiste à dire je vais passer de la fenêtre de la médecine à la fenêtre de la physiologie comparée. Je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Donc non plus, les questions changent, c'est-à-dire ce n'est plus question de savoir à quelle maladie, à quel symptôme tel micro-organisme est associé, mais d'observer qu'est-ce qu'un micro-organisme peut faire à l'intérieur d'un autre organisme sans causer aucune maladie. Et il va comparer l'asepsie, c'est-à-dire l'absence de micro-organismes dans des tissus, à ce qu'il appelle la symbiose. Donc l'absence également de micro-organismes, mais qui a l'air d'être néfaste quant à elle. Donc il y a comme un renversement de la question. Ce qui était, Paul Portier, et voilà, on sent qu'il y a des, il y a un scrupule, parce qu'il y a un risque de réhabiliter la génération spontanée qui a été un grand débat en biologie. Donc voilà, lui il essaye de montrer comment non pas l'organisme produirait des micro-organismes ou des germes ou des choses comme ça, mais comment voilà il y a introduction dans le corps de micro-organismes qui devient bénéfique. Il y a tout l'exemple de termites qui ont un champignon à l'intérieur de leurs intestins qui leur permettent de digérer le bois qu'elles mangent pour creuser leur et ensuite qu'elles régurgitent pour construire leur termitière. Et donc voilà, on a ces images très frappantes dans ce livre, les symbiotes d'un corps, peut-être pas composite chez lui, mais vraiment plutôt fait d'emboîtement. Je crois que c'est la première phrase de son livre, c'est ça, hein, de l'amibe jusqu'à l'homme, tout organisme est l'emboîtement d'au moins deux organismes différents, quelque chose comme ça. Et c'est très frappant, hein, les images qu'il utilise d'un corps gigogne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme s'il y avait des boîtes à l'intérieur desquelles il y a des vies à l'intérieur d'une vie. Voilà.
Et alors, cette théorie des symbiotes, elle fait trembler de l'intérieur l'héritage médical et germophobe de Pasteur. Je vous cite: s'il a permis d'affirmer que les bactéries sont aussi vivantes que nous, il les a aussi intimement liées à la maladie et à la contamination des aliments menant à des formes d'hygiénisme privilégiant la stérilisation et les antibiotiques. Voici pour Pasteur. Karl, une deuxième pause musicale, tu nous amènes à nouveau au Venezuela. Ça, c'est pour faire un hommage à la musique de ce merveilleux et beau pays.
Oui, on va s'intéresser maintenant à une compile Bandcamp. Ça s'appelle The Exiled, an electro compilation by Venezuelan artist. Voilà, accent de merde, comme d'hab. Et on va écouter en fait des jeunes gens qui ont sorti il y a 6 ans une compilation. Ce sont des exilés, donc ils ont fui les conditions économiques, voire politiques de ce pays. Et vous allez voir, là on va se faire un petit morceau de drum and bass, je crois, bien sympathique. Et ça va être compliqué de caler la suite de l'interview, je m'en rends compte. Si je mets ça sur l'ordi d'antenne, incroyable, il va y avoir un défi technologique pour la suite de l'émission.
Ça c'est ambitieux ça, le défi technologique. Sinon, tu sais, il y a peut-être des gens aux États-Unis, là, comment ça s'appelle, du côté de la CIA, des choses
la
comme
NSA.
Ça. Ils ont l'air assez forts pour faire des opérations un peu plus dingues que juste ton truc là au niveau de l'ordinateur. Toi, ça c'est un truc un peu d'une mission de base, quoi, tu vois.
Alors là,
ils avaient des hélicoptères qui volaient vraiment ultra bas. Et tout quoi, enfin il y avait un enjeu quand même très fort quoi.
Ce que j'ai trouvé quand même assez immonde, c'est le défilé dans New York là avec le van et Maduro à l'intérieur.
Et puis il a pris quand même un hélicoptère aussi, parce que c'était super important qu'il prenne un hélicoptère.
On se croirait dans un dessin animé de Big Jim quoi.
Et puis il y avait un engin quand même bien, enfin, comment dire, bien blindé, parce que c'est vrai qu'à New York on sait jamais des fois qu'il y ait quelqu'un avec
un parapluie qui les attaque.
Mais ça faisait des belles images, j'ai regardé ça aussi en mangeant ce midi.
C'est bien Hollywood. Allez,
go! Émission du fictionnaire. Émission du fictionnaire, Radio Campus Orléans.
C'était même un peu électro.
Retour d'interview avec Étienne Miqueux.
Oui, alors attends.
Je parle encore. On parle donc de Symbiose, essai sur nos vies ensemble dans l'excellente collection Terra Incognita aux éditions Flammarion, un livre que vous trouvez actuellement en librairie sur ce concept révolutionnaire de symbiose des lichens auscultés par les botanistes du 19e siècle aux hybrides des théories contemporaines. Étienne Miqueux, c'est en direct live.
Du mal à passer du côté des faits parce qu'on avait du mal à considérer qu'un micro-organisme puisse avoir un rôle positif de construction, d'architecture quasiment du vivant. Et effectivement, alors dans le livre, voilà, j'ai essayé aussi de relier ça à des questions qui sont aussi des questions politiques finalement, hein, sur l'héritage de Pasteur, sur ce qu'on considère comme pathogène, comme à éliminer, à nettoyer. Enfin, il y a une question politique là-dedans. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on reconnaît comme faisant partie d'un corps? Et des questions esthétiques aussi, hein, des questions de la question de ce qui est propre, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un tissu sain? À quoi ça ressemble? Et c'est vrai que, voilà, sur cette question esthétique, c'est vrai que dans les textes qui m'ont intéressé, ceux de Paul Portier par exemple, ceux de Lynn Margulis, on a des images qui sont pas les images les plus séduisantes, hein, pour la symbiose. C'est-à-dire, ce sont des images, chez Paul Portier, il y a des coupes d'intestins de termites en pleine digestion. Il y a des termitières géantes chez Margulis. Ce sont des images microscopiques, issues de microscopes électroniques, de microbes en tout genre, de tapis microbiens gluants. Donc voilà, il y a quelque chose aussi par rapport à cette question. À cette ligne tracée par la symbiose qui diverge finalement du microbe pathogène qui a aussi des implications pas seulement épistémologiques mais politiques et esthétiques.
J'aimerais réinsister sur cette histoire avec Lynn Margulis et de son premier article fondateur de 1967, parce que vous écrivez bien qu'il a été refusé une dizaine de fois par les revues scientifiques. Lynn Margulis a eu de grandes difficultés à faire accepter ce concept de symbiose. On l'a bien compris par ce retour à Pasteur, mais aussi par une certaine lecture de Darwin qui envisage les quatre symbioses comme exceptionnelles dans l'évolution, ce qui marginalise d'autant plus la symbiose. Donc, il y avait tout de même encore tout ce bain-là théorique en arrière-fond qui faisait que Lynn Margulis a eu des grandes difficultés à faire accepter ce concept.
Oui, effectivement, elle a eu du mal. Il y a effectivement donc cette question du... Il y a différentes, bien sûr, plein de facteurs, hein, qui font que cette hypothèse a pas tout de suite été acceptée. Voilà, ce rôle des microbes et effectivement tout l'héritage de, enfin l'héritage, ce serait, il faut être plus précis. En tout cas, c'est une certaine lecture de Darwin qui a été qualifiée de néo-darwinisme, hein, qui avait une certaine lecture de Darwin qui avait tendance à mettre l'accent sur la sélection. Et donc à évacuer ou en tout cas à repousser la symbiose et les dynamiques d'association comme étant marginales dans l'histoire de l'évolution, voire en n'y reconnaissant pas un moteur possible en fait, hein, du changement, l'acquisition de traits, l'acquisition de génomes, de manière comme ça latérale, horizontale, comme le propose Margulis, et la théorie de l'endosymbiose a eu du mal à être reconnue. Alors j'ai aussi une autre hypothèse à côté de toutes les questions épistémologiques, c'est aussi la question esthétique en quelque sorte, c'est-à-dire que dans un des articles comment dire, qui discutaient cette hypothèse, hein, de son premier article, les auteurs de cet article, qui est intitulé, je crois, tout simplement, l'origine non symbiotique de la vie, quelque chose comme ça, donc vraiment qui s'oppose frontalement à cette hypothèse, ils commencent leur article en disant « Oui, cette théorie de l'endosymbiose est esthétiquement plaisante, mais elle n'est pas convaincante. » Alors, esthétiquement plaisante, bon, c'est quand même très intéressant, et c'est quelque chose qui revient dans la réception négative de Margulis. Hein. On lui reproche sa manière d'écrire, sur tous ses livres qui sont coécrits avec son fils Dorian Sagan. Voilà, c'est joli, mais c'est pas bien sérieux. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors on entend, hein, souvent dans cette réception-là aussi un sexisme, mais aussi quelque chose, voilà, l'assimilation de la symbiose, de l'association, de la coopération, à quelque chose qui est bon, qui est plaisant, qui est beau, mais voilà, qui est pas sérieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi essayé de prendre justement au sérieux, en disant que ce que fait Margulis, c'est peut-être aussi ça, c'est aussi proposer des formes, quoi. C'est-à-dire c'est une théorie de la symbiogenèse qui s'accompagne aussi de formulations, d'images, qui insistent, hein, sur des manières d'être ensemble, sur l'agrégat, l'agglomération, sur des qualités sensibles, hein, l'enchevêtré, le filandreux, l'emmêlé, etc. Qui je pense font aussi partie de ce qu'elle a proposé, de ce contre quoi, enfin ce qu'on a pu lui reprocher également. Ouais.
Puis le concept va vers une grande reconnaissance et vous écrivez ceci: vu de loin, l'histoire de la symbiose ressemble à celle d'une reconnaissance exponentielle. D'Anton de Barry à Lynn Margulis, on est passé du lichen à la terre entière, de l'exception à l'expansion, de la note de bas de page à un concept central, non seulement pour la biologie, mais aussi, aujourd'hui, pour les sciences sociales, la philosophie et les arts. Bien entendu, les arts, nous n'en avons pas encore parlé. Et vous posez cette question: notre 21e siècle est-il le siècle de la symbiose?
Alors oui, je le dis de manière un peu... un peu malicieuse, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu cette reconnaissance, hein, il y a toujours, hein, une reconnaissance du concept de symbiose en biologie. C'est un concept qui aujourd'hui est beaucoup travaillé, donc ça ne fait pas de doute. Et il y a aussi cette circulation du concept. On a parlé de Donna Haraway, on pourrait aussi mentionner Anna Tsing, voilà, toute une constellation constellation intellectuelle de pensée de l'écologie, même Bruno Latour, hein, qui parle pas explicitement de symbiose, mais dès les hybrides dont il parlait, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui participe de ce moment-là. On peut remonter même jusqu'à Deleuze et Guattari, hein, dans Mille Plateaux. Enfin, il y a toute cette tous ces concepts, hein, rhizome, relation, enchevêtrement, toute une ménagerie aussi, ou tout un bestiaire de champignons, hein, le matsutake chez Anna Tsing, les figures tentaculaires chez Donna Haraway. Je pense aussi à ce mouvement qu'on appelle le nouveau matérialisme, la matière vibrante chez Jane Bennett, hein, c'est un livre central de ce mouvement, les nouveaux matérialismes. Elle cite Lynn Margulis. Voilà, la symbiose est devenue, je crois, en tout cas, c'est pas seulement la symbiose, parce que j'ai pas eu une approche moi-même dans mon livre très définitionnelle, mais j'ai plutôt essayé de rassembler des références, d'abord des textes scientifiques et puis aussi des textes théoriques, donc de philosophie, d'anthropologie, comme dans un... Il y a un champ notionnel, quoi, un champ lexical que j'identifie comme étant symbiotique et qui permet de, je crois, de destituer un certain nombre de choses, de destituer le principe de la lutte pour l'existence, de la survie du plus apte, hein, du darwinisme social, destitution, voilà, d'un certain rapport hygiéniste aux microbes, destitution également de toute une série de dualismes que la symbiose fait vaciller, parce qu'il est question de partir d'une prolifération qui se donne d'emblée comme telle. Donc voilà. Alors après, je parle de siècle de la symbiose de manière un peu malicieuse, parce que on a pu revenir sur l'histoire du XXe siècle comme le siècle le siècle du gène, le siècle de l'atome, etc. Alors j'ai repris un peu cette formulation d'historien des sciences, mais pour aussi un peu en douter, c'est-à-dire que c'est un succès relatif. C'est-à-dire que le concept a mis du temps déjà à être reconnu. Et puis je peux pas m'empêcher de me dire qu'on vit pas une époque très symbiotique. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est-à-dire qu'il faut j'ai essayé de pas faire du concept quelque chose avec lequel triompher, quoi, mais plutôt de suivre un peu plus patiemment comment on en est arrivé là, à ce concept qui aujourd'hui peut faire l'objet d'ouvrages très populaires c'est quoi, le charme discret de l'intestin, quelque chose comme ça, et puis les conversations secrètes des arbres, je sais plus, donc
vous êtes assez proche du titre.
Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est des best-sellers qui ont popularisé certains cas de symbiose. Je me demande c'est un peu la question que je me pose aussi dans le livre. Enfin, en tout cas, c'est un défil. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ce concept aujourd'hui?
D'ailleurs, ce que vous souhaitez faire avec ce concept, c'est très clair. Vous voulez le doter aussi d'une puissance transformatrice. Et c'est fort louable. Alors, on va en venir, pour cela, à votre analyse de la symbiose en tant que chimère. Vous avez tout un chapitre là-dessus. Et cette idée part du dialogue élargi. Dialogue élargi, c'est cette proposition vers 2000 de l'anthropologue australienne Deborah Bird Rose. Qu'est-ce que vous voulez entendre avec symbiose de la chimère?
Je pense qu'en mobilisant la chimère, j'ai voulu... effectivement, élargir le cadre dans lequel je cherchais à penser la symbiose. C'est-à-dire que, alors, chimère fait partie de ce lexique symbiotique dont je parlais. Margulis l'utilise. C'est un mot qu'on trouve en biologie, d'ailleurs, hein, chimère génétique. C'est un statut d'hybridité génétique, on pourrait le dire comme ça. Et sauf que Margulis, c'est intéressant parce qu'elle, elle le prend avec sa propre malice, hein, elle le prend dans tous les sens du terme, pas seulement en un sens scientifique, mais aussi au sens mythique, quoi. C'est-à-dire la créature fantastique composée de parties hétérogènes. Et donc ça, j'ai aussi cherché à le prendre au sérieux. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose avec la symbiose, avec cette idée qu'on est des agrégats, on est composé d'espèces différentes, il y a quelque chose qui réactive la figure de la chimère, la figure de la fable ou des contes. Et avec Deborah Birdrose, que vous avez citée, c'est effectivement une anthropologue qui, elle, a cherché au début des années 2000, je crois, elle a cherché à proposer ce dialogue entre science occidentale, moderne, et savoir autochtone, ou en tout cas essayer de, enfin non pas de décréter le fait que un tel dialogue doive exister, mais plutôt au moins poser la question, quel genre de dialogue on peut entretenir pour produire des savoirs sur ce qu'elle appelait des humanités écologiques, comment les deux peuvent faire front commun, quoi, face notamment à la catastrophe écologique. Et donc elle cherchait à prendre au sérieux l'idée qu'on va pas, dans cette production de savoir, on va pas reconduire le fossé qui séparerait le fait du mythe. Il y a quelque chose, il faut pouvoir reconnaître, y compris dans des savoirs non occidentaux, non modernes, un raisonnement auquel elle appelait connectif. Hein. C'est la question de la connectivité qui lui semblait advenir justement avec l'écologie. Toute la question des écosystèmes, toutes les métaphores aussi de la cybernétique, hein, l'autopoïèse, ce genre de choses. C'est tout un réservoir conceptuel qui à ce moment-là est important pour penser des dynamiques d'écosystèmes. Ce que j'ai cherché à faire, c'est suivre un peu cette piste, c'est-à-dire d'éviter de faire la symbiose, ce qui nous est offert par la science moderne, c'est notre cadeau, et puis on le brandit comme le savoir enfin véridique qu'il nous fallait et qui va nous rassembler. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai cherché à faire. Voilà, c'est à vrai dire, c'est pas de faire dialoguer j'ai pas fait la même chose que Deborah Birdrose en allant chercher des terrains non occidentaux, mais j'ai cherché à remonter un peu dans le temps et chercher à reconnaître qu'est-ce qui dans les textes sur la symbiose, qu'est-ce qui pouvait être réactivé de savoir ou de mode de raisonnement prémoderne. Et donc là, c'est effectivement des intuitions que j'avais eues en lisant Lynn Margulis. Il y a des formulations qui me semble renouer avec l'analogisme, c'est-à-dire ce mode de raisonnement du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui a été décrit par Foucault, par Philippe Descola, qui consistait qui concevait le monde comme étant fractionné en un nombre d'innombrables différences. Le monde est comme ça composé est fractionné en une multiplicité de différences, et face à cette prolifération des différences et l'affolement suscité face à cette prolifération, le mode de raisonnement consiste à tisser des liens et à tisser des analogies pour qu'il puisse y avoir une analogie, il faut qu'il y ait des différences en fait. Hein. C'est toute cette les analogies microcosme, macrocosme, ce genre de choses. Et c'est vrai que chez Margulis, par exemple, on a vraiment ça, hein, l'idée de. Il y a cette formule dans Microcosmos qui dit le microcosme vit en nous et nous en lui. Paul Portier aussi, hein, que j'ai cité tout à l'heure, hein, l'idée de l'emboîtement. Enfin voilà, on a tout un tas comme ça de métaphores ou de formulations qui consistent à dresser non pas des équivalences, mais des analogies d'échelle. Les microbes sont les microbes sont à la biosphère ce que nos organes sont à nos propres corps. Enfin, il y a tout un ensemble comme ça de jeux, d'échelles, de correspondances qui sont très concrètes. Hein. C'est pas juste des métaphores, c'est-à-dire qu'elles sont matérielles et qui dessinent un vaste réseau de correspondances qui me semblait réactiver quelque chose de l'analogisme et donc de dézoomer un peu.
Dézoomons, rezoomons tout de suite en direct le Venezuela pour la musique et pour la fin de cette émission du Fictionnaire.
Oui.
Et puis vous aurez bien entendu l'entièreté de l'interview avec Étienne Miqueux sur le site en passant par les services américains, bien entendu, Google, tout ça, où vous allez avoir sur Internet l'émission du Fictionnaire.
Vous serez toujours bien accueillis. On finit avec un KP9000, artiste qui est localisé à Caracas sur Bandcamp. Bon, l'album est pas tout jeune, ça a 20 ans, et je vous avouerai que j'ai quasiment pas écouté ce qu'on va diffuser, donc je ne pourrai pas vous en parler, mais ceci clôt cette émission.
Que viva Venezuela.
C'est ça. Et puis bah, je passerai ce que j'avais prévu le mois prochain.
Yeah.
Ouais, ou il y aura peut-être autre chose, on sait pas.
Et puis
quoi.
Juste après, c'est T'en veux, c'est de la bonne, oui. L'ami Jean-Marc déjà dans la place.
Tout à fait, allez.
L'émission du Fictionnaire s'achève ainsi.
También Bongo me dijo a mí que de un palazo le hincharon.